10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, bonjour, c'est parti, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h précisément pour commenter, décrypter, analyser l'actualité. Bien sûr, la mécanique n'a pas changé. Alors c'est parti au sommaire de cette émission. Nous allons en direction parler des orphelins, les enfants abandonnés. C'est terrible, effectivement, vous le savez, il y a une association qui s'appelle Atlas Kinder qui s'en charge et qui s'en occupe, et ils ont besoin un peu de soutien concernant évidemment cette période un peu compliquée. On se retrouvera dans une poignée de secondes justement avec l'un des responsables qui sera avec nous pour nous expliquer cette orphelinat et puis aussi surtout ces enfants qui vivent aujourd'hui sans parents et qui sont abandonnés. Nous reviendrons aussi sur les sujets d'actualité concernant, alors vous le savez, avec les débatteurs influenceurs qui eux vont commenter et confronter leur point de vue. On reviendra sur, vous savez, hein, il y a eu la mort de Chemseddine et puis le tweet d'Éric Zemmour et puis le maire qui a décidé certainement d'envisager de porter plainte. Alors nous reviendrons sur cette actualité parce que il y a d'autres rixes qui se sont été provoqués depuis la mort de Chemseddine. Depuis, eh bien, vous savez, d'autres ados se sont pris des coups de béquille, etc. Eh bien, nous en parlerons. Ensuite, nous irons direction, vous savez quoi, le cyberharcèlement. Parce que Mila parle et juge aujourd'hui que les propos sur la laïcité, eh bien, la laïcité, elle considère qu'elle est morte dans les écoles. Nous en parlerons et on reviendra sur ces propos qui ont tendance à provoquer un véritable débat. On parlera aussi, vous savez quoi, de cette guerre, mais surtout la situation à Gaza et la situation humanitaire aujourd'hui. Et l'armée israélienne qui se prépare à une opération à Rafah après 6 mois de conflit. Eh bien, nous en parlerons. Michel Taube tout à l'heure et son billet d'humeur. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000. Vous le savez, vous êtes toujours prioritaire et les bienvenus durant toute la durée de l'émission, les informés sur BFM. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face, en attendant, on a quelques difficultés à joindre notre ami, justement, enfin notre Atlas Kinder, l'association qui gère les enfants abandonnés. On a un peu de mal à les joindre. Le face-à-face avec tout de suite l'Obnasta, bonjour, qui représente l'écologie au centre. Comment ça va?
Bonjour, ça va très bien, merci Adil.
Tout va bien?
Ça va, merci.
À ses côtés, c'est Augustin Vargues. Bonjour, Augustin.
Bonjour à toutes et à tous.
Bon, comment ça va, Augustin?
Très bien. Très, très bien. Merci.
Ça va.
J'ai repris ma voix.
Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous avez fait?
Du miel. Du miel et du lait chaud. Voilà.
C'est bien. Bravo.
Voilà.
On a un élu, c'est le livre de Villejuif. Et il est humaniste, pacifiste, artiste. C'est Guillaume Dussouy. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Adil. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Bon, ça va?
Ça va plutôt bien, on a eu du soleil hier qui nous a redonné un peu de vigueur, on sent arriver des beaux jours et ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien, j'espère, hein, parce qu'on en a besoin.
Peut-être un incident climatique qui vous fera voter écologie au centre.
Ouais, l'écologie au centre, ça y est, elle est déjà en campagne.
Ça y est,
elle est en campagne, là, ça y est, elle est partie.
Si l'écologie au centre partie, avait des ambitions, mais pour l'instant, ouais, ça c'est pas démontré. Hein.
Ça ne fait pas partie des sujets à aborder aujourd'hui, on en parlera.
Ça clash là, ça clash. On en parlera justement en pleine campagne. Justement, allez, l'adolescent, vous savez, qui a été agressé à Viry-Châtillon, et puis surtout la mort de Chemseddine. Alors, on va parler, moi, ce qui m'intéresse, le tweet d'Éric Zemmour. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a le maire qui envisage de Viry-Châtillon, qui envisage vraiment de porter plainte. L'honneur n'est pas de taper quelqu'un, évidemment, à 4 contre 1. Ça, c'est le maire qui parle comme ça de Viry-Châtillon, mais surtout, les propos ont provoqué vraiment... un véritable tollé. Dites-moi, alors, l'adolescent, et puis surtout, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire?
Mais il a dit quoi, Zemmour, encore? Parce que moi, j'écoute pas Zemmour. Hein, donc, éclaire-moi, Adil, hein, mais moi, je...
Il a comparé la ville à l'Afghanistan, ou les talibans, je sais pas quoi, non?
C'est ça.
C'est un peu son fond de commerce, comme
il pédale dans la smoule sur les élections européennes, il a besoin de se faire connaître, un peu plus, peut-être.
Et c'est son
le clash...
Le clash
lui permet de vivre politiquement.
C'est toute cette question du code de l'honneur. Le code de l'honneur dans sa version entre guillemets la pire, c'est cette idée que le déshonneur d'une fille rejaillit sur ses tantes, ses cousines, bref, contamine toutes les femmes de la famille. Moi, je peux pas entendre qu'un responsable en France puisse justifier ces raisonnements-là dans d'autres pays et les calquer sur la France. On est en France. Ce dont on a besoin de parler, c'est d'émancipation et de conditions d'émancipation des jeunes filles et des jeunes garçons. Là, on assiste à un meurtre par folie collective autour d'un flirt. Un flirt. Moi, je me souviens que je chantonnais dans les années 80. Elle a fait un bébé toute seule. Je veux dire, c'est pas possible qu'on soit en France et que la pression sociale se transforme en violence telle que le flirt soit interdit par les frères, par les pères, par les mères, par les tantes
infime minorité quand même.
Et qu'on se retrouve
que ce soit minoritaire ou pas,
ça retraduit une violence sociale et des schémas qui de toute façon préexistent dans toutes les sociétés en très grande difficulté sur les conditions de vie. Les conditions d'émancipation en France ne sont plus là et c'est pas les propos de Zemmour qui les apporte.
Justement,
s'émanciper, c'est quoi ? Déjà, bon, une pensée pour la famille de Chem Seddine, parce que perdre un enfant, c'est déjà de mort naturelle, c'est déjà très dur. De cette façon-là, j'imagine même pas l'état de la famille. Pour Éric Zemmour, bon, c'est son fonds de commerce, hein, il sait pas sur quoi taper. Donc, avant les européennes, c'est toujours la même chose. Samara, Chem Seddine, voilà. Concernant tout ce qui est fleurs, tout je sais pas quoi, moi, à mon âge, moi, mon père, il m'interdisait ça aussi. C'est normal, je veux dire, c'est culturel aussi.
Mes parents
vous disent
les temps ont changé.
Ils vous interdisaient de flirter?
Il m'interdisait de sortir avec un garçon. Il voulait pas que j'aille faire n'importe quoi avec des garçons.
La société de l'interdit, ça crée de la subversion, ça crée de la transgression.
Voilà, ils voulaient pas parce qu'ils avaient peur pour moi, ils avaient peur ce qui est normal, ils avaient peur aussi pour mes frères.
Mais là, c'est une confiscation de liberté.
Mais ils me confisquaient pas ma liberté, c'est normal. Je me suis fait avoir par des salopards après. Donc merci papa, merci maman.
Merci papa et merci maman.
Pourquoi vous dites
que les temps ont changé, effectivement, et qu'on ne vit plus du tout la même époque.
On vit dans une période de réseaux sociaux permanents où la quête de l'interactivité elle est permanente. Donc effectivement, le côté grand frère protecteur, très bien d'être dans la prévention, tout ça, mais après d'aller régler ses comptes. Un garçon qui avait des tentatives
qui est mort, rappelons-le,
qui est mort, ouais. Et qui a fait des tentatives de flirt avec sa petite sœur. Pardon, on en est à des images médiévales.
Attendez, laissez. On ne tue pas parce qu'il y a eu un flirt.
Moi, ouais. Je suis navré pour cette. Enfin, je suis catastrophé pour ce qui est ce pays sur certaines mentalités de certaines personnes.
Les mentalités de certaines personnes, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement, vous savez, cette pression du quartier, la pression que subit parfois évidemment certaines familles, certains aussi sœurs, surtout parlant de ces jeunes filles. Nous en parlerons tout à l'heure, vous savez quoi, allons-y direction, vous savez quoi, Atlas Kinder, il est 19h09, on a réussi à établir la liaison avec l'interview du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, vous savez quoi, on a encore un petit souci de liaison, mais bon, écoutez, on va le régler, hein, c'est le direct, hein, c'est le principe du direct, mais c'est comme ça, donc on va aller accueillir le Atlas Kinder, qui est une association qui s'occupe, vous savez quoi, d'enfants abandonnés, hein, et c'est des enfants abandonnés, ce sont 182 enfants abandonnés qui ont manqué, vous savez, tout simplement de parents, d'amour, et qui ont été installés dans un village dédié à ces orphelins, et je voudrais qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez qui est avec nous. Alors justement, la liaison est rétablie. Enfin, parce qu'on a quelques soucis de technique. Khalid El Kandili, bonjour.
Bonjour Adil, ça va ?
Ça va très bien, bonjour Khalid El Kandili que je ne présente même plus d'ailleurs. On vous a connu évidemment, vous êtes un champion du monde de kickboxing, un grand champion même d'ailleurs. Et vous êtes aujourd'hui consacré, vous avez été aussi engagé sur les quartiers populaires, puisque on vous connaît, vous avez été plusieurs fois, à plusieurs reprises conseiller. Et aujourd'hui, vous êtes à la fois un homme de médias, mais également aussi un homme très sensible aussi aux actions en direction évidemment humanitaire. Et vous allez nous parler d'Atlas Kinder aujourd'hui. Pour quelle raison vous allez nous parler d'Atlas Kinder, mon cher Khalid El Kandili?
Je vous remercie de m'avoir contacté sur le sujet. J'ai écouté attentivement votre précédent échange avec vos invités et nous sommes tous de tout cœur et nous présentons nos condoléances à la famille du petit qui est décédé par la bêtise de certains qui pensent bien faire et il n'y a pas d'honneur à tuer quelqu'un pour des choses aussi bêtes. Alors au niveau de d'Atlas Kinder, c'est une institution qui a des enfants abandonnés et des orphelins. Et nous avons 185 enfants. Nous avons, c'est l'esprit d'un village. On a 22 maisons avec comme un village où vivent ces enfants. Et c'est une institution privée, donc il y a besoin de trouver des moyens financiers. Et nous avons profité de cette fin de Ramadan pour lancer une cagnotte pour essayer d'avoir du financement par nos amis de France.
Voilà. Alors rappelons-le quand même, Khaled El Kandili, justement, Atlas Kinder, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est quoi? C'est un village? C'est plusieurs villages? Ça se situe où précisément? Et ces enfants ils viennent de quelle région justement?
Alors les enfants viennent de la région de l'Atlas, Nous sommes au cœur. Vous avez tous, je pense, suivi la catastrophe naturelle qui s'est déroulée avec le tremblement de terre au mois de septembre. Eh bien, nous sommes au cœur de
en Maroc, effectivement, en Maroc.
Voilà, au cœur de cette région, donc à une demi-heure de Marrakech, à Tahnaout, exactement la province du Haout.
Oui, à une demi-heure donc de Marrakech, c'est un village aujourd'hui. Comment, dans quel état il se trouve après justement, vous savez, ce terrible tremblement de terre qui s'est déroulé en septembre dernier?
Alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tout autour de l'orphelinat, il y a eu beaucoup de dégâts parce que nous étions au cœur du séisme. Tout autour, il y avait beaucoup de dégâts. Et ce qui est incroyable, c'est que le village en lui-même, où vivent les enfants, n'a pas été touché. Donc on a strictement rien eu. Et en fin de compte, le village a permis de servir un petit peu de base arrière à toute la logistique pour venir en aide aux sinistrés donc de cette catastrophe, de ce tremblement de terre. Aujourd'hui, on avait un jardin pédagogique où on a construit une centaine de logements pour accueillir aussi les sinistrés. Et en fin de compte, ces logements servent aujourd'hui aussi de formation pour la réhabilitation des mères de famille qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs enfants pour pouvoir repartir en ayant une formation et en ayant le moyen de subvenir à leurs besoins.
Mais Khaled El Kandili, on va écouter un petit extrait justement de vos actions concernant Atlas Kinder qui agit en direction des enfants orphelins. Vous parliez tout à l'heure de 185 précisément, enfants orphelins. Écoutons ce petit extrait justement, ça se passe sur place, à 30 km comme vous le disiez, de là où s'est déroulé ce tremblement de terre et puis surtout là où se trouve ce village à 30 km de cette région de l'Atlas.
Ici, vous êtes à Atlas Kinder, on est au village d'Al-Bouidr. Donc ici, au niveau du village d'Al-Bouidr, on a 185 enfants en temps normal, donc 185 orphelins en temps normal. On a 140 personnes qui travaillent avec nous pour s'occuper des enfants. Et on a une vingtaine d'enfants lourdement handicapés. Bon, on est en plein cœur du site sur lequel il y a eu le tremblement. Alhamdoulilah. Ici, personne n'a été touché. Et ce qu'on a décidé, c'est d'aménager. On a dans le prolongement du village, on a une ferme agricole, pédagogique. Cette ferme pédagogique, on est en train de l'installer avec des amis et de l'aménager pour que ça devienne un site sur lequel on va accueillir un millier de personnes. On peut aller jusqu'à un millier de personnes, c'est-à-dire...
Un millier de personnes. Justement, aujourd'hui, Atlas Kinder a besoin de moyens. Vous disiez tout à l'heure, Khaled El Kandili, que vous aviez besoin de moyens. Pour quelle raison, justement, en direction de ces enfants abandonnés, ces enfants orphelins?
Les moyens qu'on a besoin, vous savez que comme dans une maison, il faut comment dire, il faut scolariser les enfants, il faut nourrir les enfants, il faut s'occuper aussi de leurs loisirs extérieurs. Voilà, comme dans une maison, parce qu'ils vivent dans l'état d'esprit d'une maison.
Ils ont quel âge les enfants, Khaled El Kandili?
Alors les enfants ont de 2 ans jusqu'à 12 ans, voilà, de 2 à 12 ans.
Et ils ont, rappelons-le, hein, c'est des orphelins, ils n'ont pas de parents pour la majorité d'entre eux. Hein.
Ouais. Voilà.
Alors
voilà.
La cagnotte avant de rendre l'antenne, parce qu'on va marquer, on va se retrouver avec la pause. Khaled El Kandili, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement pour celles et ceux, vous savez, qui ont envie de décider d'agir et de vous aider, d'aider à de la Skinder, quelle est la cagnotte justement pour ces orphelins?
La cagnotte, on l'a mise il y a à peu près 5 jours, c'est une cagnotte quotidienne. Et donc elle est bien siglée Atlas Kinder à l'occasion du Ramadan. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs, à tous les auditeurs, une bonne fin de mois de Ramadan et un bon Eid. Et c'est une période où je sais que nous sommes tous sensibles à la cause des plus faibles, qui sont injustement touchés. Et on a aussi besoin du soutien de tout le monde.
Merci Khaled El Kandili. Je le rappelle, vous étiez donc avec nous, notre invité, pour parler d'Atlas Kinder, cette association des orphelins, des enfants orphelins, 185. Si vous voulez les aider, cette fameuse cagnotte, c'est tout simplement taper Atlas Kinder en direction et donc de ces orphelins. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Khaled El Kandili. Merci et bon courage surtout à vous.
Merci.
Et bravo effectivement pour le boulot. À très bientôt, 10h17. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec les débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec notamment Lobna Sta, Augustin Vargue, Guillaume de Souy. Nous allons continuer avant de parler de ce cyber harcelé. Justement, vous savez, Mila, la fameuse histoire de Mila concernant. Je voudrais juste qu'on finisse sur cette histoire sur cette malheureuse mort de Viry Châtillon. Mais surtout, vous disiez tout à l'heure, les mentalités n'ont pas évolué finalement. La pression du quartier, la pression familiale, la pression locale. Bref, tout cela, Augustin Vargue.
On est en train d'expliquer, mais pas forcément justifier, effectivement. On est en train de comprendre ce qui s'est passé à travers ce drame. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui vivent, il y a des garçons.
Parce que encore, ça détruit des familles aussi. Hein.
Bien, ça détruit des familles. Ouais, et puis la pression, effectivement, du quartier, comme on disait, la pression de la famille. Mais il n'y a rien qui justifie ce qui s'est passé, réellement. Enfin, franchement,
non, c'est
ignoble.
C'est
et c'est ignoble. Et ça existe.
Ces dernières années, un peu plus qu'avant. Sauf que là, avec les réseaux sociaux, je dis.
C'est décuplé.
Mais je pense
aussi que derrière, il faut une éducation. Il faut, à l'école, il faut des.
Il n'y a pas de civisme à l'école.
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit délégué du harcèlement, qui soit quelqu'un, une infirmière qui vienne toutes les semaines dans les écoles, qu'il y ait des parents délégués, je sais pas, il faut qu'il y ait un socle dans les à l'école pour prévenir de du harcèlement, prévenir de la violence, qu'il y ait des délégués de classe aussi qui soient formés là-dessus, à écouter, à être le réceptacle des souffrances que certains élèves endurent de la violence, du harcèlement et tout ça. Je pense qu'il faudrait faire ça à travers l'école.
Bah, Monsieur Attal a promis beaucoup de choses pour 2024. On attend septembre 2024 pour voir ce qui va être fait.
Bon, Guillaume, de Souy, avant de passer au second sujet.
Oui, bah sur ces questions-là, comme sur beaucoup d'autres, la question qui supplante, qui est primordiale, c'est celle de la confiance.
Est-ce que ça suffit?
On doit pouvoir avoir confiance dans sa sœur, on doit pouvoir avoir confiance dans ses sœurs, dans ses frères, on doit pouvoir avoir confiance dans ses amis, et on voit que toute notre jeunesse est en perte de confiance et se réfère à l'interdit et revient à une espèce d'autoritarisme qui n'a pas de fondement culturel, qui n'a pas de fondement culturel autrement que dans une société où la vie devient pénible et où l'interdit est une sorte de bouclier. Eh ben, je suis désolé, mais moi j'ai besoin d'une France où la République est un bouclier de confiance qui permet de penser sa vie en rêve et qui permet de penser sa vie en liberté. Et ça, c'est le flirt. Effectivement, on a besoin de flirter pour grandir dans sa tête, pour avoir des expériences qui permettent de mieux comprendre l'autre et avoir une vie mature beaucoup plus épanouie et une vie de couple qui a du sens. Donc arrêtons, rétablissons la confiance.
Alors,
dans
je veux bien
entendre
ce que vous dites, mais est-ce que ce que vous dites, il n'y a pas un long décalage, un fossé énorme entre ce que vous dites et la réalité du terrain, mon cher Guillaume de Souy.
Je suis là,
vous écoutez parler, j'aime bien, c'est le pays des merveilles.
Je suis désolé.
C'est le pays des merveilles.
Vous êtes en train de nous expliquer quelque chose, on dirait qu'on est à un autre pays, vous êtes à Marne-la-Vallée, je vous ai écouté, franchement, Guillaume,
mais j'ai l'impression que c'est le monde des merveilles quand même.
Et t'as pas grandi dans ce monde là
Mais la vérité, est-ce que t'as flirté?
Est-ce que t'avais confiance dans la société quand t'avais cet âge-là?
Non, la société ne m'a pas fait confiance, justement.
Et ouais.
Ben oui. Elle t'a pas fait confiance non. De ce fait.
Je vous le dis, je suis déçu de vous le dire, Guillaume, c'est vrai. La société n'a pas voulu nous faire confiance.
Quand t'avais cet âge-là.
D'entrée en primaire, je savais effectivement cette injustice, elle avait tout son sens. Cette injustice, déjà, en primaire. En primaire, vous vous rendez compte, le coup de massue que vous prenez en pleine figure, c'est terrible.
Et ça conditionne le reste.
Et ça conditionne le reste, effectivement, je vous promets, c'est
bien
vrai,
sûr.
C'est la vérité, c'est la vérité. Guillaume de Souy.
Et pourtant, cette confiance, elle te dit quelque chose.
Après, vous bâtissez, vous façonnez quelque chose, évidemment, et c'est là où l'éducation des parents intervient. C'est là où l'importance de l'éducation des parents, je pense qu'elle est essentielle.
Moi, pense que les parents, il y a certains parents qui ont démissionné sur la
monoparentale, par exemple.
Pas forcément, mais même l'autorité, je pense qu'on veut, certaines familles qui ne veulent plus d'autorité. Tout doit être horizontal.
On va continuer de parler de Véry Châtillon, mais surtout on va parler de laïcité avec Mila aussi notamment. Allez, 10h31, Michel Taube, c'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Quoi de Neuf avec Michel Taube. Bonjour Michel Taube, comment ça va mon cher Michel Taube?
Bonjour mon cher Adil, bonjour aux éditeurs de Beurre FM. Il y a de l'ambiance sur votre plateau.
Ah, il y a toujours de l'ambiance, vous le savez, non? Il y a toujours de l'ambiance. Mais, c'est normal, on parle de la malheureuse, évidemment, du malheureux décès de Shemseddine à Véry-Châtillon, et on parlait de l'éducation. Je vous lance avec le billet d'humeur, alors, vous, évidemment, oui, à vous. Alors, la parole.
Alors écoute, en fait, on est un peu sur le même sujet, parce que moi j'ai été très choqué à la fois en tant qu'éditorialiste et finalement parent, par ce que vient de révéler le Figaro ce matin. il y a une étude du Centre National du Livre qui a commandé une étude à Ipsos et qui révèle que les enfants, les ados, passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des bouquins. Et quand les enfants lisent, ils lisent en fait des mangas, des comics et des BD. Donc en fait, 77% du temps de lecture, c'est pour lire des images et non pas des textes. Et encore, pour terminer le tableau, lorsque les enfants lisent, ils font la moitié du temps de lecture, ils font autre chose en même temps. C'est-à-dire qu'ils parlent entre eux, ils regardent autre chose, ils regardent un écran à côté, etc. Donc en fait, on a une nouvelle génération, que moi j'appelle une génération perdue de la société, qui est en train d'émerger, qui est là, devant nous, qui sont nos enfants, et qui sont en fait des enfants qui ne savent plus lire, ils savent lire, mais ils n'aiment plus lire, ils ne lisent plus. Et cet effondrement du temps de lecture, c'est un véritable séisme sociétal et politique, culturel et politique. Et je pense qu'il est temps, que, non pas nos politiques, mais nos politiques, nous-mêmes, en tant que parents, et les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui en sont conscients, nous réagissions très très fermement. Et lorsque j'entends une Najat Vallaud-Belkacem, femme politique socialiste, à gauche, proposer de restreindre à 3 mégaoctets d'accès à Internet pour les enfants, quand j'entends certains pays qui commencent à interdire, à restreindre très très fermement les accès à Internet pour les enfants, à cause de ce désastre auquel on assiste, je me demande si en France aussi, la France qui est souvent un pays avant-gardiste, la France qui est souvent un pays qui éclaire un peu sur le chemin de certaines émotions, si on ne devrait pas provoquer un véritable choc pour protéger nos enfants de ces accès à Internet qui sont en train véritablement de bâtir une société perdue, pour une génération perdue pour notre société.
Ouais, en tous
les cas, je pense que c'est un vrai sujet de société sur lequel nos politiques devraient travailler plutôt que de se déchirer tous les quatre matins sur des enjeux politiciens.
Je suis complètement d'accord avec vous, il faut provoquer le choc. C'est vrai, il faut le provoquer,
Quoi, les solutions ?
Les solutions, justement, elles peuvent émerger de partout. Hein. Il en a proposé c'est une, justement, Michel Taube.
Ouais.
Michel Taube, merci infiniment, je vous libère. À très bientôt.
À très bientôt, bonne journée à vous.
Bonne journée, merci. Vous êtes éditorialiste, mais également aussi le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Merci, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après. On va parler de laïcité, vous savez quoi, avec, souvenez-vous, Mila, qui aujourd'hui considère que la laïcité est morte dans les écoles. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, vous savez, avec l'Obnasta, avec Augustin Varguin, enfin Guillaume Dessouy. Nous allons parler, vous savez, que de Mila, à qui on a demandé de s'excuser dans les coulisses, vous savez, elle a été invitée. Et aujourd'hui, elle dit clairement qu'elle sent que, vous savez, tout simplement, la laïcité est morte dans les écoles. L'Obnasta.
Déjà, premièrement, j'ai envie de dire. Qui est Mila pour dire que la laïcité est morte?
Rappelons que Mila s'est fait cyberharceler pour des propos anti-islam.
Ok, elle s'est fait cyberharceler. Je déplore ce cyberharcèlement. On ne menace pas de mort quelqu'un. Mais je ne suis pas Mila du tout, moi.
Elle dit que c'est que le début à l'école.
Ceci dit,
la laïcité, elle est morte.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je bémoliserai ce que dit Mila.
Il y a une espèce de charia qui s'impose.
C'est que les incidents à la laïcité ont augmenté, c'est vrai, ces dernières années. C'est un fait. Et on ne peut pas dire que l'éducation nationale ne soit pas taiseuse ou taisante sur ces sujets-là. Il y a eu des remontées d'atteinte à la laïcité ces dernières années. Mais ceci dit, la laïcité n'est pas morte. C'est juste quelques cas de temps en temps, dans quelques bahuts, comme on dit, qui se passent.
Alors,
il
ne
faut pas généraliser.
La laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est un enseignement. Donc, ça veut dire que c'est dans les mains des enseignants. et je suis désolé, mais les enseignants en France aujourd'hui sont hyper attachés à la laïcité. Qu'elle ose dire que la laïcité dans l'école est morte, c'est confondre les propos. Elle fait de sa propre expérience une espèce de stratégie systémique, c'est-à-dire que elle a souffert et parce qu'elle a souffert, les remparts n'existent plus.
Elle dit que c'est que le début et l'espèce de charia qui s'impose de plus en plus dans les écoles.
Des établissements, les débats aujourd'hui soient extrêmement mal vécus et mal orientés. C'est à nous d'en faire notre examen et elle peut en faire l'examen aussi, mais à ce moment-là, elle parle de ce qui se passe dans la jeunesse. Et effectivement, dans la jeunesse, ces débats-là sont en train de s'enquister. La faute à qui ? La faute pas aux professeurs, puisque les professeurs, l'école, elle fait son travail. La faute à un ministre de l'éducation qui est devenu Premier ministre. La faute à un éditorialiste qui s'est cru tout permis et qui s'est présenté au présidentiel.
La faute, elle est plus ancestrale que ça.
Avec des propos complètement hallucinants et qu'on
C'est pas de vague. Donc en fait, pendant des années, on a fait pas de vague.
C'est surtout ça, c'est vrai.
Il y a le pas de vague, en fait, qui s'est enquisté.
D'accord, il y a eu un film là-dessus et vous avez été voir le film vous trouvez ça formidable.
Mon exégèse.
Peu importe.
C'est le pas de vague qui a fait beaucoup de problèmes dans nos sociétés, en fait.
Non, mais le pas de vague, il est sur le manque de moyens à l'école. Le pas de vague, il n'est pas sur la laïcité. Le pas de vague, il est sur le fait qu'il n'y a plus d'encadrement. Moi, dans ma ville, à Villejuif, c'est les éducateurs de la ville qui viennent dans les cours de récré pour aider les professeurs.
Ah oui, d'accord.
C'est comme ça qu'on s'en sort.
Voilà ce qui se passe
à l'éducation nationale.
J'ai une chose à dire.
Ça nécessite des moyens quand même.
La laïcité, pour moi,
ça nécessite le choix d'un maire qui est progressiste et les maires de droite, ils font pas ce boulot-là. Ils disent c'est au père de régler les problèmes, que c'est l'autorité à l'intérieur de la famille qui doit être le rempart de la République. C'est n'importe quoi. C'est les mêmes qui nous parlent d'autorité régalienne.
Il y a des
surveillants.
Non, mais déjà, premièrement, elle a dit que le grand journal, ou je ne sais pas qui, là, comment s'appelle, Yann
Barthès,
lui aurait dit de dire ça pour ça, etc. Déjà. Et après, elle vient sur le plateau d'Apolline de Malherbe pour dire finalement la laïcité est morte. Excuse-moi, mais quand tu es en dehors de l'école et que tu vas sur Internet et que tu insultes une religion, peu importe laquelle, que ce soit l'islam, le judaïsme, le catholicisme, pour moi, je suis désolée, c'est pas une question de laïcité. De quoi on parle là ?
On parle
de blasphème. Pour moi, même si le blasphème est autorisé en France, j'en sais rien, je ne sais pas, je suis pas partie voir si c'était autorisé. Moi, je suis pas Mila. Moi, je suis désolée.
Le blasphème est autorisé en France.
Et même si j'avais été juive, même si j'avais été catho, je suis désolée. Je suis désolée pour elle par rapport aux peines de mort, etc. Ça ne devrait pas exister. Mais non. On n'insulte pas les gens, ça fait de la peine. Attends, mais tu sais pas qui tu as derrière.
Et surtout dans une société derrière tout ça. Une société fragile, éruptive et tout ça.
Surtout ça là.
C'est ça le problème, c'est que tu n'insultes pas de religion
et que l'islam est quand même pointé du doigt.
Mais bien sûr, régulièrement dans
les écoles.
Et tu fais pas ça.
Avant les élections, c'est l'islam qu'on vise du doigt, qu'on vise, qu'on montre du doigt.
C'est tellement le débat est tellement corrosif sur tous ces sujets-là. Et c'est vrai que l'islam est
toujours l'islam
et la destination et le récipiendaire de toutes les attaques et les caricatures qui peuvent y avoir.
Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve, Laura?
Que ce soit toujours l'islam. Tu remarqueras, vous remarquerez, avant chaque élection, je reviens toujours parce que c'est les européennes, mais chaque élection, on parle d'islam. Mais merde, enfin, excusez-moi du terme, zut.
Oui,
arrêtons.
Parce que certains, ceci dit, je suis d'accord, certains illuminés se revendent. L'amalgame entre l'islam et eux est immédiat, en fait, malheureusement.
Moi, je suis française, mais ils représentent pas l'islam.
Ils représentent eux-mêmes. Voilà. Et par contre, il faudrait qu'il y ait un clergé dans la religion musulmane. Non, mais il en faudrait. Parce qu'il y a tout le monde qui peut dire au nom de l'islam, ils peuvent
on pourrit le débat de la République avec ces questions-là. Les questions qui devraient être au centre du débat, c'est comment on rebâtit le chemin des libertés, quels besoins on a. Et là-dessus, toute une classe politique est d'accord sur le fait que on n'a plus les moyens de nos ambitions, que on est écrasé par la dette. Et à partir de là, ils veulent imposer des sacrifices à toute la population sur des champs qui sont des champs du service public. Je suis désolé, mais qu'on laisse une Mila parler de laïcité et faire l'amalgame avec son expérience personnelle, c'est un renoncement collectif.
Oui,
parce que
2020,
mademoiselle Mila, on devrait lui répondre, et Apolline de Malherbe devrait lui répondre, la laïcité, elle se garantit avec des moyens, et ce dont vous nous parlez, vous, madame, c'est de violences subies.
Elle se garantit avec des moyens, mais la loi
aussi. Et ne venez pas sortir du champ. Et on de ce fait, il y a une espèce de pensée unique, moi j'appelle ça le remplacisme, où on remplace les capacités à penser une société de l'épanouissement et de la confiance, j'y reviens, par une société du jugement, de l'interdit, de l'anathème. Et moi, je suis désolé, mais c'est hyper important de pouvoir choquer et blasphémer, c'est des libertés fondamentales.
C'est hyper horizontal, c'est hyper vertical, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, oui, horizontal. Bon, bref, je suis un peu. Mais c'est très féodal depuis 2020. Depuis le Covid, c'est très féodal. Ça part de là-haut, ça descend. Elle dit n'importe quoi. Pour moi, je veux même pas entendre ce genre de personnes. Je comprends même pas qu'on puisse les inviter à la télé. Je ne comprends pas. Ça, c'est dû. Pour moi, c'est parce que, excusez-moi, les Français ont une mémoire très très courte. Vous allez voir qu'ils vont vite oublier ce qui s'est passé, les gilets jaunes, tout ça, le Covid, tout ça, et puis on va revenir. Ah si, ils vont tout oublier, les Français, puis après ils vont dire on a voté, puis ils vont commencer à pleurer. Bon, pas grave. Mais,
les propositions de l'écologie au centre alors
Pas très centriste comme propos.
Je voudrais qu'on parle, c'est quoi, de ce dernier sujet avant de rendre l'antenne, c'est cette guerre. Six mois de guerre donc à Gaza, l'armée israélienne se prépare à une opération militaire à Rafah.
Ça, c'est une catastrophe.
Ouais, alors parlons-en justement, Guillaume de Souy.
Oui, ben.
Jour 184e jour.
On est face à une folie annoncée. Les conditions humanitaires de l'intervention sont absolument impensable. L'armée ne pourra pas faire autrement que d'avoir des milliers de victimes civiles. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui à Rafah 1 500 000 Gazaouis qui se sont déportés du nord vers le sud. Et que les bidonvilles et la densité de la population ne permet pas une intervention. Monsieur Netanyahou dit qu'il a défini une date, c'est-à-dire qu'il voit arriver la fin du Ramadan et que c'est sur la fin du Ramadan que symboliquement il a décidé d'axer son intervention. Ouais. Et on a un président de la République, oui, qui, pour donner de la portée à la voix de la France, fait une tribune avec Monsieur Sissi. On est dans la démence
président
collective.
Ouais. Augustin Vague, alors justement, parlons-en. Ouais.
Non, mais de toute façon, ça sera un puissant fond, cette histoire. Parce qu'on peut mettre du jour 183, 184. Qu'est-ce qui peut arrêter les choses, en fait? Il faut effectivement libérer les otages et derrière, qu'il y ait un État palestinien reconnu. Mais ça, on en est loin de tout ça.
On est loin de tout ça, quand même.
Comment ?
On est loin.
On en est loin.
C'est un doux
songe. Mais il faut se le projeter, quand même, à un moment donné.
Oui, mais c'est un doux rêve.
Parce qu'à un moment donné, Netanyahou, on va peut-être le traduire aussi à la Cour pénale. Et ses sbires aussi.
Mais non, on ne pourra pas, parce qu'on admet qu'Israël ne soit pas adhérent de cette Cour pénale, comme les États-Unis d'ailleurs. Et effectivement, un acte fort du président de la République, plutôt que de faire une tribune creuse, ce serait de reconnaître l'État palestinien. Ça changerait des équilibres géostratégiques. Et puis, il y a l'outil des sanctions. Je suis désolé, mais un gouvernement d'extrême droite comme celui de M. Netanyahou, on l'attaque avec des outils qui sont ceux du droit. Et
surtout qu'il y a ses compatriotes qui manifestent en plus, qui sont en train de demander des comptes. De plus en plus, il faut le dire aussi.
Mais il est très mal, Netanyahou,
là. Il est pas bien. Les Israéliens le soutiennent comme la corde du pendu soutient le pendu, presque. Ils n'ont pas le choix.
Le plastron.
Moi, je suis. Je trouve que. Je rejoins mon ami, là, en disant que voilà, tout ce qu'il faudrait, c'est avoir un deuxième État.
Et bien sûr.
Qu'on déplore aussi bien les victimes palestiniennes les victimes israéliennes, parce que les victimes israéliennes ne sont pas avec Netanyahou, ça il faut le dire, le peuple juif n'est pas avec Netanyahou, le peuple israélien. Et on rentre dans un. Pour moi, il n'y a pas de. On ne va pas en s'en sortir, on ne s'en sortira pas.
Je crois que pour rajouter sur le sujet, je pense que Netanyahou attend de jouer la montre pour que Trump soit élu.
Tout à fait.
Comme ça, oui, il aura son collimier d'immunité.
Avec
plus
Trump,
fort.
Il va l'avoir, oui.
Voilà. J'ai dit que la situation était démente parce qu'elle est inédite. Et face à une situation inédite, quand on fait de la politique, on trouve des solutions inédites. Et je suis désolé, mais dans cette histoire-là, il n'y a pas d'autre chemin qu'une force internationale. Une force internationale qu'il faut réinventer. Il faut redonner de l'espoir aux populations israéliennes et palestiniennes. Il y a pour cela des tactiques, des stratégies réelles, des milliers de casques bleus. Ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui et pourtant c'est dans la charte de l'ONU. Alors on applique la charte, on envoie 50 000 hommes sur le terrain, on neutralise ce conflit. Et
bon courage,
en dehors de ça, je suis désolé, mais on revient sur cette notion du terroriste, parce que ce que fait l'État palestinien, l'État israélien, pardon, c'est aller chercher des terroristes et les tuer en tuant tout autour, toute la vie et toutes les populations civiles. Je suis désolé, mais ils ne l'ont même pas fait pour les nazis. Quand on a eu les lendemains de la guerre, l'État israélien qui se recréait sur des valeurs et qui avait une pensée politique forte a été chercher tous les criminels nazis qu'on n'appelait pas à l'époque terroristes, alors que les nazis ont bien fait une politique de terreur, et ils ont été les chercher pour les traduire en justice. Que n'ont-ils fait la même chose pour les gens du Hamas? On traduit les criminels en justice. On ne tue pas la population civile pour, soi-disant, les tuer, alors que la peine de mort n'existe pas en Israël.
Oui, mais c'est de la sémantique, la groupette, ça, depuis le début,
mais
on le sait.
Mais c'est pas de la sémantique, c'est des décisions politiques concrètes.
Mais d'envoyer des casques bleus, d'envoyer des casques bleus...
On le sait tout ça, depuis le début, on le sait, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, maintenant, ça fait plus de 180 jours, et on est toujours... c'est pire. On fait quoi?
Et personne n'en a parlé. Mais personne n'en a parlé à aucun niveau politique.
On va rester comme ça, on va crever.
Parce qu'il y a quand même la France et les autres pays à Amman. Qu'est-ce qu'ils ont, j'ai entendu, il y avait la France, Amman, Oman, l'Égypte. Ouais. L'Égypte aussi, qui ont fait front.
La Jordanie.
La Jordanie.
C'est cette tribune qui est vide de sens où le président de la France co-signe avec Sisi.
C'est pas Oman.
C'est dingue. C'est dingue.
Non, mais il faut. De toute façon, là, notre président est devenu hors sol. Lui, il plane complet. Donc là, moi, j'attends
plus. Et puis d'avoir mis dans le protocole Stéphane Séjourné, huitième personnage du gouvernement, c'est une faute professionnelle.
Une grosse faute.
C'est une faute historique.
Merci à vous. Merci à Guillaume Dessus. Vous n'y arrivez pas. On va s'en sortir.
On va y arriver. Sur Disney, solutions inédites. Nous avons besoin de sortir de l'ordinaire.
Augusta Varga, très bientôt.
Merci beaucoup.
Il y a un ouvrage qui est celui du président de Europe au centre, Jean-Marc Governatori. Ça s'appelle L'alternative aux fausses soyeuses de l'écologie politique, écrit par le coprésident écologie au centre, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Je vous invite vivement à acheter, à lire, c'est très intéressant.
À voter pour lui. Bah,
écoutez, on va en parler.
À voter pour lui.
Merci,
pour les
Européennes. À bientôt. Merci à Faudil et à la réalisation. À demain. Demain, c'est la fête de l'Aïd, vous savez. Et bon, on se retrouve jeudi à 19h. On retrouve le créneau normal des informés. Portez-vous bien.
Merci.
Merci, Adil.
Bonne fête de l'Aïd à tout le monde.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.